Hervé, bonjour.
Bonjour.
À la une de la presse aujourd'hui, le discours sur l'Europe qu'Emmanuel Macron doit prononcer à la Sorbonne dans quelques heures.
Discours très attendu pour une majorité très tendue, car la campagne des macronistes pour les élections européennes du 9 juin peine à démarrer. Le président, au secours de sa majorité, titre la croix. Macron joue gros, renchérissent les échos. Macron entre en campagne pour sauver son camp, ajoute le Figaro, qui relève au passage que le discours de ce matin s'inscrit dans une zone grise entre les moyens de l'État et les comptes de campagne de la majorité. De fait, le président doit parler de l'Europe et non des européennes, mais comment séparer les deux? Macron joue aux pompiers, ironise Libération à propos de la campagne électorale, mais reconnaît aussi que l'essentiel du discours du président de la République en 2017 à la Sorbonne déjà a été validé par les crises.
Les journaux savent-ils ce que va dire Emmanuel Macron ce matin?
D'après Le Parisien, le propos doit être articulé autour des axes suivants: défense et sécurité, questions économiques, commerciales, industrielles, écologiques, valeurs européennes, identité, démocratie, ça fait beaucoup de choses. Emmanuel Macron devrait formuler en outre des propositions pour faire avancer l'Europe dans les secteurs stratégiques comme la défense, l'énergie, le numérique et renforcer la souveraineté européenne. Mais ses conseillers jurent sans rire que son discours n'aura rien à voir avec la campagne. L'Opinion raconte que le président a réuni mardi une vingtaine d'experts pour préparer son grand oral. L'un d'eux, Gilles Finkelstein, le secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès, a dit à Emmanuel Macron « Sorbonne 1 était l'analyse de vos pensées, Sorbonne 2, celle de vos arrière-pensées.
Ah. »
Arrière-pensées électorales, bien sûr.
Pas mal. Un sujet de préoccupation qui monte dans beaucoup de pays d'Europe, le surtourisme est en première page du Parisien aujourd'hui en France.
Illustré par un embouteillage de gondoles sur un canal de Venise, « Tourisme, l'overdose », titre Le Quotidien. À partir d'aujourd'hui, les visiteurs d'un jour dans la cité des Doges devront payer un droit d'entrée de 5 euros. Le monde entier observe cette expérimentation car le trop-plein menace de plus en plus de sites, écrit Le Parisien. D'après l'Organisation mondiale du tourisme, 95% des voyageurs visitent moins de 5% des terres émergées. Aux Canaries, des habitants sont allés jusqu'à la grève de la faim il y a quelques jours pour protester contre le fléau touristique. La ville de Barcelone, elle, a négocié que l'appli Google Maps retire une ligne de bus surchargée de touristes. Le maire de Colmar songe à faire payer l'entrée du marché de Noël. Et dès l'an prochain, l'île de Ré, qui accueille quand même 150 000 visiteurs chaque été, va limiter les locations de meublés.
Et puis à Radio Classique, dès le 1er septembre, la visite de nos locaux sera payante, je plaisante. Contrairement au tourisme, la détention d'armes est strictement encadrée en France et pourtant il en existe des quantités astronomiques qui ne sont pas déclarées.
C'est une enquête passionnante du journal Sud-Ouest qui nous l'apprend, enquête menée à la suite de la blessure du chanteur Kenji Girac qui a reçu une balle de revolver dans des circonstances encore opaques. Sud-Ouest relève que 7 à 8 millions d'armes à feu sont illégalement détenues en France, en plus des 5,5 millions possédés par les chasseurs et les tireurs sportifs qui sont dénombrés à 250 000, nombre qui sème le doute, écrit Sud-Ouest. On trouve des armes dans des caves d'immeubles, dans les quartiers sensibles, comme dans les greniers des maisons de famille, chez les trafiquants et chez les collectionneurs. Elles s'achètent dans des brocantes ou sur Internet et 9 000 armes à feu sont aussi déclaré volé chaque année dans des cambriolages.
Sud-Ouest rappelle que fin 2022, le ministère de l'Intérieur avait lancé une sorte de collecte nationale pour récupérer des armes chez les particuliers, une sorte d'opération pièce jaune, quoi.
Oui, opération armes à feu, et elle avait permis, cette opération, de récupérer 140 000 armes quand même en une semaine, ce qui est à la fois beaucoup et peu. Tous les ans, 30 000 armes sont rendues spontanément à l'État, explique le chef du service central des armes et des explosifs au ministère de l'Intérieur dans Sud-Ouest. Il parle néanmoins d'un vrai problème de sécurité publique, car la détention d'armes illicites accroît évidemment le risque d'accidents domestiques et peut faire dégénérer les conflits familiaux ou de voisinage. Un féminicide sur deux est commis avec une arme à feu. Sud-Ouest souligne aussi que les suicides par arme à feu en France sont trois fois supérieurs à la moyenne nationale. La moyenne mondiale.
Un constat moins sombre dans un autre quotidien régional, La Provence, qui vante les performances de la médecine dans sa région. Ça, c'est mieux.
C'est champion de la médecine en Provence, titre en une le journal marseillais. On aurait pu s'attendre à y lire une autre enquête sur les armes à feu, qui sont hélas une spécialité locale. Mais La Provence France rappelle à juste titre que Marseille est aussi une capitale internationale de la recherche médicale. Le journal cite les travaux du professeur Fabrice Bartholomei et de son équipe, référence mondiale en matière de neurostimulation pour soigner l'épilepsie, par exemple. Le journal évoque aussi la prouesse d'une start-up dont le logiciel basé sur l'intelligence artificielle aide les chirurgiens à isoler les zones à opérer pour soigner l'arythmie cardiaque, ou encore le laser futuriste qui révolutionne le traitement de la myopie, et l'Institut Paoli Calmette en pointe dans la recherche sur le cancer du pancréas, entre autres. C'est une vision positive de l'actualité marseillaise à laquelle on n'est pas habitué. Une façon de mettre l'accent sur ce qui va bien, avec l'accent du midi, pourquoi pas.
J'en connais un qui boit du petit lait, c'est Franz-Olivier Gisbert, notre esprit libre du jeudi. Il applaudit en silence, parce qu'il vit à Marseille, évidemment. On termine avec Le Point, Hervé Gattegno, qui publie un grand entretien avec la philosophe Elisabeth Badinter. Elle y explique les causes, selon elle, de la baisse de la natalité dans les pays industrialisés.
C'est une invitation à la réflexion qui se lit avec intérêt, comme toujours avec Elisabeth Badinter. Pour elle, le renoncement à faire des enfants a à voir avec la mauvaise atmosphère qui règne en ce moment entre les jeunes hommes et les jeunes femmes. Ils ont peur les uns des autres, dit-elle. Je vous lis ce qui suit. La vision néo-féministe qui fait des femmes des victimes par essence et des hommes des prédateurs par essence n'a pas fait progresser l'égalité. Combattre la violence des hommes est un impératif, mais si on associe le progressisme au wokisme, alors je ne suis pas d'accord. Les néo-féministes, en distinguant les bonnes victimes des mauvaises, les Afghanes, les Iraniennes, les Israéliennes, les Yézidis, les néo-féministes donc ont trahi le féminisme universel. Elisabeth Badinter explique aussi que la charge de la société et des tâches domestiques continue de peser exagérément sur les femmes et en tout cas bien plus que sur les hommes. Son nouveau livre s'appelle « Messieurs, encore un effort ». Je vous passe le message.
Reçu et reçu aussi par Franz-Olivier Gisbert. On va la recevoir très prochainement. Elisabeth Badinter, c'est prévu. Et je vous signale aussi la parution d'un livre de Sophie Sachine, Merci Madame Badinter, qui est un hommage à la philosophe et à son travail, et notamment au service de la cause des femmes. Dans un instant, Franz-Olivier Gisbert, Esprit Libre.